Pouvez-vous vos Bibles? Pouvez-vous me montrer vos BIBLE? Ah voilà, ça c'est notre repère, c'est notre boussole. Si un jour vous me voyez venir avec un autre livre, de toute façon je ne suis pas inquiet, j'ai des anciens, croyez-moi, ils veillent au grain et que Dieu soit béni. En tout cas dimanche dernier, nous avions vu que si nous voulions voir notre foi progresser, il était important de manifester ce qu'on appelle le langage de la foi. Un langage de la foi qui se repose sur les vérités de la parole de Dieu, un langage de la foi qui a confiance en Dieu, j'ai envie de dire à 100%, un langage de la foi qui est dénué de toutes sortes de doutes ou bien d'incrédulité. Je ne dis pas qu'on ne peut pas à un moment donné vivre le doute, mais surtout on le combat, on n'accepte pas qu'il vienne se conforter dans notre cœur. Et puis un langage de la foi qui, bien sûr, et ça c'est l'équilibre, se rappelle et qui prend en compte de la souveraineté de Dieu. Et oui, souveraineté. J'aurais pu, peut-être c'est vrai, quelqu'un m'a fait la remarque, m'attarder un peu plus sur ce troisième et dernier point que nous avions partagé la dernière fois, la souveraineté de Dieu. Dieu va guérir l'un et Dieu va laisser peut-être l'autre dans l'épreuve. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Et c'est là où on a besoin de lui faire pleinement confiance. Quand je lis dans l'Ancien Testament, par exemple, un homme qui a reçu une double onction de la part de Dieu, je parle du prophète Élisée. Et la Bible nous précise que Élisée mourut de la maladie dont il était atteint. Est-ce qu'un chrétien peut-il être malade et peut-être même mourir de sa maladie? Vous avez la réponse. Paul, en toute simplicité, va dire « Mais j'ai laissé Trophime malade. » Mais le Seigneur, il sait ce qu'il fait. Que nous vivions, que nous mourions, nous sommes au Seigneur, et il fait de nous ce qu'il veut. Mais bien sûr, nous déclarons, nous confessons que Dieu veut guérir toutes les maladies. À la croix, Jésus a pris toutes nos maladies et toutes nos souffrances. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Aujourd'hui, je voudrais encore continuer sur le thème de la foi. On est déjà rendu à 3 dimanches où nous nous sommes arrêtés sur la foi. Et je voudrais peut-être ce matin insister cette fois-ci sur le combat. Le combat de la foi. Et j'ose préciser le bon combat de la foi. Et pour ce faire, je vous invite à regarder avec moi la deuxième épître à Timothée. C'est Paul qui s'adresse donc à ce jeune serviteur de Dieu, Timothée. Et il va lui dire en ces termes la déclaration suivante de Timothée, chapitre 4 et le verset 7. Ce sera un premier verset d'introduction. Et Paul fait comme un bilan spirituel. Vous savez, quand il a écrit ce dernier courrier, les commentateurs sont tous d'accord pour dire que cette deuxième épître de Timothée est la dernière lettre que Paul a écrite avant sa mort. Et c'est comme une sorte de testament au travers duquel il donne quelques recommandations à ce jeune serviteur de Dieu, Timothée. Et puis on constate aussi qu'au travers de cette deuxième lettre adressée à Timothée, Paul va faire comme un bilan spirituel de ce qu'a été ses objectifs dans sa marche et dans sa vie chrétienne. Et il va faire le point et il va dire à Timothée, « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. » Il faut aussi noter que dans la première lettre à Timothée, Paul, à deux reprises, va encourager le jeune serviteur de Dieu à faire de même, à pouvoir combattre le bon combat. Je vous donne juste les références, on va les lire très rapidement, ne les cherchez pas. 1 Timothée chapitre 1 verset 18 par exemple. Le commandement que je t'adresse Timothée mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat. Et il insiste, le bon combat. Et comme pour appuyer sa recommandation, un peu plus bas, 1 Timothée chapitre 6, cette fois-ci, le verset 12, 1 Timothée chapitre 6, verset 12, « Combat, le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Et vous l'avez compris, si Paul insiste comme cela, c'est que quelque part ce bon combat, il est important pour nous. Il était important pour Timothée, en particulier, il est important pour nous en général, il est important pour l'Église entière. D'où l'importance, pour moi ce matin, de m'arrêter sur ce terme, cette expression. Combattre le bon combat. Premièrement, je note que lorsque Paul fait mention d'un bon combat, c'est bel et bien parce que quelque part, il y a un mauvais combat. La Palisse n'aurait pas dit mieux. S'il y a un bon combat quelque part, c'est qu'il y a un mauvais combat autre part. Et je voudrais peut-être dans une première partie m'arrêter très rapidement sur ce que peut être le mauvais combat. Oui, se poser la question, mais s'il y a un mauvais combat, quel est-il ? J'ai pris pour vous quelques exemples. Par exemple, nous combattons le mauvais combat toutes les fois où nous luttons contre la chair et le sang. C'est l'apôtre Paul qui dit dans Éphésiens chapitre 6 et le verset 12, juste la première partie de ce verset 12, de ce chapitre 6, de l'épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang ». Juste s'arrêter à ça. Autrement dit, on n'a pas à lutter contre le prochain, on n'a pas à lutter contre le frère ou la sœur, on n'a pas à lutter contre eh bien, notre prochain, oui, d'une manière générale. Pourquoi ? Ben parce que finalement, en faisant cela, nous menons le mauvais combat. Pire encore, on finit par se détruire les uns les autres. Regardez ce que dit l'apôtre Paul dans Galates chapitre 5 et le verset 15. Galates chapitre 5, verset 15. J'ai eh bien avec beaucoup, beaucoup de joie eh bien placé plein de versets pour vous. Notez-les, comme ça vous pourrez les lire tranquillement. L'apôtre Paul dit, mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, parce qu'on peut, pas forcément physiquement, que Dieu soit béni, mais déjà spirituellement, avec la langue, on peut se mordre, on peut se dévorer les uns les autres. Mais l'apôtre Paul, rempli du Saint-Esprit, va dire, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Frères et sœurs, ne nous flattons pas, même au sein d'une église locale, il peut se faire que des chrétiens entre eux arrivent à se dévorer, à se mordre spirituellement. J'ai même vu des pasteurs entrer en lutte avec peut-être d'autres collègues. Et l'apôtre Paul nous prévient que quand on en arrive là, eh bien c'est toujours après eh bien pour avoir eh bien des isanies, des conflits. Et puis tout cela amène à la destruction, frères et sœurs. Il y en a même qui ont perdu leur santé à cause de ça. Je peux vous le dire. Frères et sœurs, si nous avons un différend, si nous avons une inimitié c'est le contraire de amitié. Si nous avons une haine ou une amertume contre un frère, une sœur dans la foi, je vous le dis de la part du Seigneur, dégagez-vous de ce piège, dégagez-vous de ce mauvais combat. Je vous en supplie dans le nom de Jésus. Et n'arrêtez, ne vous laissez pas flatter par l'ennemi, ne vous laissez pas tromper par de faux raisonnements. Ces choses ne vous mèneront pas eh bien, à ce saint rendez-vous eh bien, qui nous attend tous, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est important de pouvoir considérer ce que le Saint-Esprit nous dit ce matin. Arrête ce mauvais combat, mon frère, ma sœur. Toi qui es là présent, arrête ce mauvais combat. Toi qui as de l'amertume, toi qui as de la rancœur, arrête ce combat. Arrête de lutter. Arrête de te fatiguer. Arrête de te faire du mal. Arrête de faire du mal aux autres. Au contraire, entre dans ce bon combat qui consiste eh bien, à pouvoir vivre la réconciliation, qui consiste à vivre le pardon, qui consiste à vivre eh bien, le fait d'être en paix avec notre prochain. Regardez ce que dit encore l'apôtre Paul, et béni soit Dieu pour toutes ses épîtres à cet homme, qui a, vous le comprenez, reçu une grâce particulière de la part de Dieu. Romains chapitre 12, verset 18. Romains chapitre 12, verset 18. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. C'est quelque chose, vous allez continuer à apprendre à me connaître. Hein. C'est quelque chose que j'aime et qui est cher à mes yeux. Être en paix avec tous. Et je vous mets au défi, je vous regarde tous, je suis en paix avec tous. Et je ne veux pas laisser l'ennemi me piéger dans cette affaire, dire que je vais d'un côté louer le Seigneur et ne pas sentir le frère ou la sœur qui est à mes côtés. Ça, ce serait se fourvoyer, frères et sœurs. Et je le dis avec l'autorité, avec la force du Seigneur ce matin. Nous sommes venus, et comme on l'a chanté, pour aimer davantage le Seigneur. Et si nous disons que nous aimons celui qu'on ne voit pas, eh bien, à plus forte raison, il nous invite à pouvoir aimer celui que nous voyons, notre prochain, celui qui est semblable à nous. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Oh, j'ai déjà dit ici en ces lieux, Mais une fois dans une autre église, il y a une dame, j'ai vu. Il faut qu'on ait le discernement. Et par la grâce de Dieu, eh bien, discerner quelquefois ce qui peut être derrière les situations, derrière les circonstances qu'on peut rencontrer. Et cette dame, je sentais qu'elle cherchait des problèmes à entrer en conflit avec moi. Et je lui ai dit, écoutez, allez chercher quelqu'un d'autre pour bien vous battre, etc. Moi, je ne rentre pas dans ça. Et ça l'a arrêté net. Elle n'est plus venue m'attaquer. Frères et sœurs, prenons autorité. Respectons les gens, aimons-les, mais prenons autorité parce que le combat dans lequel nous sommes, c'est un combat spirituel. Nous combattons le mauvais combat toutes les fois où nous luttons contre la chair et le sang. Mais il y a aussi un autre exemple que je pourrais placer aussi devant vos yeux concernant le mauvais combat. Nous combattons le mauvais combat toutes les fois où nous nous faisons justice nous-mêmes. Et pour illustrer ce propos, j'ai pensé à notre ami Moïse. C'est le Saint-Esprit qui m'a mis cette pensée. Voilà un homme qui a été déchiré, arraché bien de sa culture, car très jeune, il a été donc éduqué chez la fille du grand Pharaon, le monarque de l'époque. Et puis, certainement, la Bible ne nous précise pas tout, mais à un moment donné, il découvre que finalement, ses origines, c'est un Hébreu. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, il vient visiter ses frères, il vient considérer ses frères qui, dans le même pays là où il se trouve, sont esclaves. Et nous lisons ce que nous lisons dans Exode chapitre 2, du verset 11 jusqu'au verset 12. Je vous laisse le chercher, c'est dans le deuxième livre de la Bible. Exode chapitre 2 et le verset 11. Il nous est dit, « En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. » Verset 12, regardez bien la scène. Il regarda de côté, il regarda de l'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, qu'est-ce qu'il fit? Il parla à l'Égyptien. Non, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Si ce n'est pas un meurtre prémédité, dites-moi ce que c'est. Pourtant, j'ouvre et je ferme la parenthèse, Dieu dans sa miséricorde, non seulement a pardonné cet homme, mais plus tard, quand il est entré dans le bon combat, eh bien cet homme a pu servir des plans, des projets grandioses qui le dépassaient d'ailleurs. Il a été le grand libérateur, le grand Moïse, qui rentrait, qui parlait avec Dieu comme un ami. Mais avant qu'il rentre dans le bon combat, on le voit bien par cet exemple, cet homme a commencé à entrer dans un mauvais combat. Et je le vois, voyant cet Égyptien finalement frappé, certainement à outrance, son frère hébreu. Son sang a fait un tour quelque part dans son être. Pris de colère, il s'est fait justice lui-même. Or, nous le savons, je ne l'ai pas mis là sur mes notes, au niveau des versets, mais la Bible est claire, elle dit, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Vaut mieux quelquefois dans une situation se calmer d'abord avant de savoir ce qu'il y a lieu de faire. Quelquefois dans la précipitation, dans la colère, on veut se faire justice. Mais la justice des hommes n'a rien à voir avec la justice de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi, frères et sœurs? Si tu es dans ce mauvais combat, laisse de côté ta propre justice et soumets-toi à la justice de Dieu. Parce que la justice des hommes n'a rien à voir avec la justice de Dieu. Dieu le dit, par exemple, si on n'aime pas son frère, on est un meurtrier. Alors la personne qui pense qu'être un meurtrier, c'est tuer père et mère, non, c'est pas ça seulement aux yeux de Dieu. Ne pas aimer son frère ou sa sœur, tu es un meurtrier. Voilà ce que dit la parole de Dieu. La justice de Dieu, elle est bien élevée. Et sans la grâce de Dieu, sans l'assistance du Saint-Esprit, qui pourrait pleinement l'accomplir et la mettre en pratique? Mon frère, ma sœur, si tu es dans ce mauvais combat, oui, entre dans ce bon combat qui consiste à se soumettre à la justice de Dieu. Et qu'est-ce qu'elle dit la justice de Dieu dans cette circonstance? Romains chapitre 12, versets 19 à 21, on le lit ensemble. Romains 12, versets 19 à 21. Ne vous vengez point vous-même. Aidez-moi à lire, mes amis. Mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi, dit Dieu, la vengeance, et à moi la rétribution, dit le Seigneur. Verset 20. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Alors là, c'est là où on perd certaines personnes. Ils ne comprennent pas. Elle dit, qu'est-ce que c'est ça? S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras où? sur sa tête. Verset 21, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Voilà la justice, un bien à laquelle un bien, les chrétiens sont appelés à pouvoir manifester au quotidien. Oui, nous combattons le mauvais combat toutes les fois où nous nous faisons justice nous-mêmes. Et puis il y a peut-être un troisième et dernier point concernant cette première partie. Nous menons le mauvais combat toutes les fois où nous combattons avec nos propres armes. Sous-entendu, où nous combattons avec nos propres forces. Et là aussi, pour illustrer ce troisième point, j'ai pensé à ce fameux soir où Jésus lui-même a entraîné ses disciples dans ce jardin qu'on appelait Gethsémané. Jésus avait déjà averti ses disciples que dans ce jardin allait se mener un véritable combat. Je l'appelle le plus beau des combats. Dans la nuit noire, Jésus, lui, le prince, le Dieu vivant et vrai, lui, celui qui s'est présenté comme la lumière, attendait ses ennemis. Et là, ce soir-là, les disciples, eux, ont préparé cette guerre à leur manière, avec leurs propres armes. Et lisez bien les évangiles, vous découvrez qu'il y a quelques disciples, commencé par Pierre, ils avaient déjà commencé à affûter quelques épées. Jésus, bien sûr, a stoppé cet acte insensé. Parce qu'il leur a expliqué que ce n'était pas comme ça qu'ils allaient qu'ils allaient remporter cette victoire ce soir-là. Au contraire, Jésus leur a dit quoi ? Regardez ce qu'il est écrit dans Luc chapitre 22, verset 40. Luc 22, verset 40. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, quel lieu ? Le jardin de Gethsémané. Il leur dit, Jésus leur a donné dès le départ. Il dit, attention, on va entrer dans un combat. Jésus ne nous laisse jamais dépourvus. Jésus nous prépare tout d'avance. On va entrer dans un combat. Écoutez-moi bien, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Qu'est-ce que Jésus a fait ? Il leur a donné l'arme. L'arme nécessaire, l'arme indispensable. Mais voyez-vous, les disciples, je me pose la question avec vous, ont-ils pris au sérieux ce que Jésus leur avait donné comme recommandation ? Et puis on se rend compte, si on regarde quelques versets plus bas, là aussi je ne l'ai pas donné à celui qui s'occupe des versets, au verset 46, six versets plus bas, Jésus qui réinsiste et qui leur rappelle l'arme, mais rien à faire. Ils ne comprennent pas que un combat spirituel ne peut pas se mener avec des armes charnelles. Pierre est venu avec ses épées, mais peut-être que toi tu viens avec tes raisonnements, avec ta propre justice, avec ta propre logique. Tu viens avec toutes sortes de raisonnements qui vont à l'encontre de ce que Dieu attend de toi. Et c'est là que tu vas mener un mauvais combat. Jésus leur déclara au contraire clairement que par la prière, seuls ils allaient être victorieux ce soir-là. Et le Seigneur nous dit ce matin que par la prière, nous pouvons remporter des combats lorsque nous traversons l'adversité, lorsque nous sommes dans l'épreuve, lorsque nous sommes les sujets donc des attaques de l'ennemi, parce que l'ennemi attaque. Vous croyez que l'ennemi reste les bras croisés ? Le diable, il attaque de toutes sortes de manières. Mais Dieu nous a laissé des armes. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 10 et le verset 4, la vérité suivante, c'est l'apôtre Paul encore qui parle, et on va peut-être y revenir un peu plus tard. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pourquoi ? Pour renverser des forteresses. Et peut-être que tu es dans un combat spirituel, et peut-être que devant toi il y a des forteresses, et tu essayes de les renverser avec tes petites armes, tes propres armes, un peu comme Pierre qui a finalement coupé l'oreille de ce serviteur, donc de ce prêtre, je parle de Malchus. Mais ça n'a été d'aucune utilité. Seule la prière de Jésus lui a donné d'être victorieux, et heureusement qui, lorsqu'il a prié, il a dit, Seigneur, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, toi. Et ça lui a permis d'aller jusqu'au bout de là où le Seigneur, le Dieu vivant et vrai, son Père, voulait qu'il aille, c'est-à-dire sur la croix, afin de mourir pour nos péchés, que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Il y a certainement d'autres choses à partager concernant le mauvais combat, mais je pense que tu es d'accord avec moi, on va s'en arrêter là. Et on va en tout cas se tourner quelques instants sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire essayer de comprendre ce que Paul voulait dire quand il parlait de bon combat. Est-ce que ça nous intéresse, ça? C'est quoi le bon combat? Il y a des expressions comme ça dans la Bible, et il faut arriver à peut-être s'asseoir et laisser le Saint-Esprit nous éclairer et nous faire comprendre les choses. C'est quoi combattre le bon combat? Eh bien, il y a quelques pistes, quelques réponses, et la première, nous la trouvons dans 1 Timothée chapitre 1, les versets 18 à 19. Et pour ce faire, je vous laisse le temps de le chercher dans votre Bible. 1 Timothée chapitre 1, verset 18. Et nous lisons ensemble. Le commandement que je t'adresse, Timothée mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Quel est ce combat? En quoi consiste ce combat? On a la réponse juste au verset suivant, verset 19. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et alors ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Je bénis le Seigneur, parce que je ne sais pas si vous avez fait attention, au travers des dons spirituels, on a entendu le Saint-Esprit nous demander de garder la foi. Qui s'en est rappelé? Qui l'a entendu? Et je vous l'ai déjà dit, faisons attention quand Dieu nous parle. On s'habitue aux prophéties. Oh, ça c'est déjà du déjà vu, du déjà entendu. Mais Dieu sait ce qu'il fait quand il parle. Soyons attentifs quand il nous parle. Et j'ai retenu, remarquez, comme ça correspondait effectivement au message d'aujourd'hui, j'ai été un peu plus interpellé, mais le Seigneur nous a dit, restez attachés, gardez la foi. Le bon combat consiste, et là je m'adresse à tous les chrétiens, tous ceux même qui entendront ce message par la suite, le bon combat consiste à garder la foi. Et je précise, garder la foi en Dieu. Pas dans une religion, pas dans un rituel, pas dans des pratiques religieuses. Non, garder la foi en Dieu. Garder la foi. Nous gardons la foi à quel moment? Eh bien, lorsque nous entretenons au quotidien une relation personnelle avec le Seigneur. On fait tout pour rester en connexion avec le Seigneur. Certains s'arrêtent le matin très tôt, d'autres c'est le soir, etc. Peu importe le moment, mais on s'alimente de cette relation indispensable avec notre Seigneur, afin de ne pas décrocher. Quelquefois on décroche, on ne s'en rend même pas compte. Et je vous le dis, pendant ce temps d'épreuve, beaucoup ont décroché, malheureusement. Mais vous, vous êtes là parce que vous avez, quelque part, par la grâce de Dieu, gardé la foi. Lorsque nous veillons à toujours demeurer dans la parole de Dieu, nous gardons la foi et nous menons le bon combat de la foi. Lorsque nous demeurons attachés au Seigneur, même quand nous traversons des épreuves, des adversités, la marche avec le Seigneur n'est jamais un long fleuve tranquille. Hein. Je sais que tout le monde pourrait le confirmer. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments difficiles. J'ai entendu des personnes dire, mais si c'est ça, suivre le Seigneur, ben voilà, j'arrête tout. Mais il s'agit, même dans les épreuves, et à plus forte raison lorsqu'on traverse la vallée de l'ombre de la mort, qu'on puisse plus que jamais rester attaché au Seigneur. Et on l'a entendu également au travers du don spirituel. Les jours ne seront pas meilleurs. Ce n'est pas, mes amis, le vaccin qui va solutionner le problème de ce monde. Parce qu'il va à sa perte, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Et plus que jamais, on a besoin de garder la foi. C'est ton combat, mon frère. C'est ton combat, ma sœur. C'est le combat de l'Église d'Istre. C'est le combat de l'Église universelle. Lorsque nous restons fermes et inébranlables, aussi quand le diable vient nous attaquer, c'est ça aussi garder la foi. Vous savez, j'ai l'impression que bien souvent on oublie que nous sommes au beau milieu, au cœur même d'un combat. Un combat spirituel qui nous oppose aux puissances même des ténèbres. D'ailleurs, pour reprendre le passage de Éphésiens 6, 12, où l'apôtre Paul dit la chose suivante, nous n'avons pas, on l'a compris tout à l'heure, à lutter contre la chair et le sang. Mais il rajoute, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. On a à combattre contre toutes ces choses, ces puissances qui sont terrifiantes. Frères et sœurs, si Dieu nous permettait de voir ce qui se passe dans le monde spirituel, ça ferait peut-être peur. Il faut savoir que la Bible nous dit que quand le diable a été déchu de là où il était, puisqu'il était un être céleste glorieux, c'était Lucifer. Lucifer veut dire ange de lumière, il menait la louange. Et à un moment donné, son cœur s'est élevé, et la Bible nous dit que eh bien, Dieu l'a précipité, et avec lui, il a entraîné le tiers des anges. Et quand on sait que eh bien, le nombre des anges, c'est des myriades et des myriades, c'est-à-dire un nombre incalculable. Et ces démons, eh bien, sachant tout un royaume qui, pour le coup, est organisé, est là pour essayer eh bien, d'attaquer surtout ceux et celles qui ne lui appartiennent pas au diable, c'est-à-dire l'Église de Jésus-Christ. Le diable ne s'attarde pas trop sur les gens de ce monde, quoique, mais il s'acharne particulièrement pour essayer de happer eh bien, les chrétiens. C'est pour ça qu'on a besoin de s'attacher plus que jamais au Seigneur, qu'on puisse se serrer les coudes les uns et les autres et avancer. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas laisser des failles entre nous. Et c'est par l'amour eh bien, qu'on va rester unis et qu'on sera fort pour faire face à l'ennemi. D'autant plus que le Seigneur ne nous a pas laissés sans armes. Et dans ce même passage, Éphésiens, on l'a lu, Éphésiens 6, 12, mais on peut lire un verset au-dessus. Il nous est dit, Éphésiens 6, verset 11, l'apôtre Paul qui dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Alors je voudrais vous faire participer ce matin. Quelles sont les armes spirituelles que Dieu nous a données? Une réponse par personne. Oui, Elda. Là, la prière, elle dit. Oui, c'est la septième arme. On y reviendra. Alors, oui, Leslie, comment? Le casque du salut. Allez, on commence par le haut. Le casque du salut. Frédéric. L'épée de l'esprit. Voilà, la parole, qui est la parole de Dieu. Oui, comment? Le bouclier de la foi. Eh oui, qu'est-ce qu'il y a? On n'a pas toutes les armes là, mes amis. Hein, si on part comme ça, ce n'est pas suffisant. Prenez toutes les armes, il a dit. Oui, la ceinture, plusieurs l'ont dit. C'était étonnant, c'est la première arme que Dieu nous donne. La ceinture de quoi? De la vérité. Si je viens ce matin, je ne suis pas vrai. On peut tromper les autres, on ne peut pas tromper Dieu. La ceinture de la vérité. Le diable a horreur de la vérité. D'être vrai à l'égard du frère, d'être vrai à l'égard de la sœur, d'être vrai avec son prochain, d'être vrai avec soi-même, et puis vrai avec Dieu. Le diable en a horreur. Il est le prince du mensonge. Quand il parle que du mensonge. Il parle de son propre fond quand on est dans la vérité. Frères et sœurs, n'ayons pas peur de réclamer la ceinture de la vérité. C'est important. Allez, chaussure que donne le zèle de l'évangile de Dieu, de paix, c'est écrit. Eh oui, parce que l'évangile qu'on est amené à partager, ce n'est pas un évangile de polémique, ce n'est pas un évangile pour essayer de faire une guérilla. On vient avec la paix de Dieu devant les gens. Et c'est avec amour qu'on leur parle à bien des choses qui concernent le royaume des cieux. Ne venons pas en conquérant. Vous savez, même ici en France, on a parlé des croisades, tout ça, mais le Seigneur n'était pas dedans, hein. Quand on a forcé les gens, certains même ont été torturés. Pourquoi? Parce qu'ils ne croyaient pas en Dieu, mais jamais Dieu. Dieu ne forcera jamais personne. C'est pour ça qu'en enfer, il n'y aura jamais des personnes que Dieu lui-même envoyait. Ces gens se retrouvent en enfer parce que, eh bien, ils auront choisi d'être en enfer. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et ça, c'est une réalité. On a oublié quelque chose? La quoi? La cuirasse de la justice. Vous voyez, toute arme est en rapport avec une vertu. On a parlé de justice, de foi, de zèle que donne l'évangile. Tout ça, c'est important. Et il est important de connaître par cœur ces six armes. Et c'est pour ça, je reviens à ce qu'a dit Elda. Eh bien, effectivement, toutes ces armes eh bien, sont comme ceinturées eh bien, par l'autre arme qui est la prière. Il nous faut prier le matin, il nous faut prier le soir, il nous faut prier à midi, il nous faut prier, eh bien peut-être au-dedans de nous, quelquefois il faut élever la voix. On a parlé du langage de la foi, il faut prier, il faut proclamer la parole de Dieu. La prière est une arme, et il faut que l'Église prie. C'est pour ça que nous vous attendons chaque mardi pour pouvoir intercéder. Le mardi soir n'est pas une option, mais c'est là où eh bien, on mène le combat, parce qu'il y a des situations qui ont besoin de la prière, et la prière de la foi. Ah, j'aurais aimé entendre un amen. Dieu nous a donné les armes. Et il faut le savoir, ou peut-être en tout cas le rappeler, c'est que le but du diable, quand il vient nous attaquer, un jour il décide, il a son calepin, il a dit aujourd'hui je vais attaquer, tiens je vais attaquer Michel Loris, c'est là. Il prévoit, il emmène ses soldats, tout, etc. Préparez ça, il prépare, c'est un rusé. C'est le malin, c'est celui qui vient, le voleur, qui vient pour dérober, égorger, détruire. Et ce qu'il cherche concernant Michel, eh bien, c'est de pouvoir saper sa foi. Il ne cherche pas autre chose. Regardez ce que dit Jésus à Pierre. Alors, je vous lis donc le verset dans la version Parole vivante. Luc chapitre 22, verset 31. Il nous est dit la chose suivante. « Écoute, Simon, méfie-toi. Satan a demandé le droit de vous passer tous au crible, comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. » Et Jésus de rajouter, « Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que tu ne perdes pas la foi. Et toi, le jour où tu seras revenu sur le bon chemin, sois le soutien de tes frères, fortifie-les dans la foi. » Pierre ne savait même pas qu'il était sur le mauvais chemin. Il ne savait même pas qu'il était dans le mauvais combat. Il va le découvrir par la suite, avec toute sa présomption. Il pensait que, etc. Quand tous les autres disciples t'abandonneraient, moi je ne t'abandonnerai pas. Et puis il a compris par la suite. Quand tu seras ramené dans le bon combat, fortifie-les. Mais je note avec vous ce que Jésus dit. J'ai prié pour toi pour que tu ne perdes pas la foi. Quand le diable nous attaque, c'est pour que nous puissions perdre la foi. Pour que vous arriviez à dire, oh, j'en peux plus, il y a trop de problèmes, trop de difficultés, mais c'est comme ça, j'abandonne, je baisse les bras, j'en ai marre, Seigneur, tu m'entends pas, tu fais rien, etc. Là, le diable peut crier, s'écrier, dire, j'ai gagné. Parce que dès qu'il a réussi à nous faire perdre la foi, c'est fini. C'est fini. D'où l'importance, écoutons ce que le Saint-Esprit nous dit de comprendre ce matin. Il nous faut garder la foi, tel est notre combat. Et ce n'est pas pour rien, comme on l'a vu tout à l'heure, que l'apôtre Paul rappelle qu'il faut combattre le bon combat de la foi. Mais pas que cela, parce que si on revient à 1 Timothée chapitre 1 versets 18 et 19, il dit, l'apôtre Paul à Timothée, que tu combattes le bon combat, en gardant quoi ? La foi et aussi une bonne conscience. Et garder une bonne conscience n'a rien à voir avec le fait de se donner bonne conscience. Pas plus tard de quelques jours, j'étais avec une personne qui n'est pas là ce matin, mais qui m'expliquait par A plus B que Dieu était avec lui. Pourtant, à côté de ça, il vivait une relation en dehors du mariage. Je dis, mais oui, le Seigneur, il est partout, il est omniscient et omniprésent, il sait toutes choses. Mais je peux te dire, à cette personne, je lui ai dit, le Seigneur ne cautionne pas ce que tu fais, tu es dans le péché et tu as besoin de te repentir. Parce que la Bible va bénir tous ceux, toute relation sexuelle qui se vit dans le cadre du mariage. Ce qui est en dehors, ça s'appelle de la fornication et Dieu condamne ces choses. C'est vrai ou c'est pas vrai, frères et sœurs ? Le monde peut avoir une mentalité, mais nous avons la mentalité de la parole de Dieu. Et nous avons besoin, avec toute douceur, de dire aux gens la vérité. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et j'ai vu cet homme se laisser convaincre par la parole. Il a dit, bon, je vais remettre de l'ordre dans ma vie. Autrement dit, je vais me remettre à combattre le bon combat de la foi. Ne nous fourvoyons pas, ne nous trompons pas, ne nous donnons pas bonne conscience, frères et sœurs. Il nous faut garder une bonne conscience. Avoir une bonne conscience, c'est marcher avec l'esprit libre et tranquille. Waouh ! On est là, on est dans la paix, on est serein, on n'est pas tracassé par quelque chose qui revient en redondance dans notre esprit. Avoir une bonne conscience, c'est ne rien avoir à se reprocher. Le meilleur, quand j'ai une bonne conscience, je suis en paix avec Dieu, avec les autres et surtout avec moi-même. Il y a des gens, ils ne se rendent même pas compte. Parce qu'ils ont mauvaise conscience, au fait, ils sont agités, mais ils ne le savent pas. Et comme ils sont agités, à leur contact, vous êtes aussi agités. Parce qu'ils ne sont pas en paix avec eux-mêmes. Et leur conscience est là en train de les accuser sur quelque chose qui n'est pas réglé. C'est d'ailleurs avec une bonne conscience qu'il faut s'approcher de Dieu. Est-ce que vous le savez ? Hébreux chapitre 10, verset 22 nous le dit. Approchons-nous avec un cœur sincère. Là, tout va bien. Il faut qu'on soit sincère quand on s'approche de Dieu. Autrement dit, qu'on soit dans la vérité, d'où avoir l'épée, la ceinture de la vérité à nos reins. Dans la plénitude de la foi, ça c'est évident, sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Mais il rajoute les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Et bien sûr, le corps lavé d'une eau pure. Et c'est pour cela que, quelque part, la Bible nous invite à faire souvent des examens, comme des bilans de notre conscience. Tout à l'heure, on a pris le pain et le vin au trait de la Sainte-Seine. Que dit l'apôtre Paul ? De pouvoir s'examiner avant de prendre ces emblèmes. Pour que ce soit réellement une bénédiction, on a besoin de s'arrêter, puis de faire le point, peut-être de la semaine, peut-être de même ce qui s'est passé ce matin. Et puis s'il y a quelques péchés qui reviennent à notre esprit, il s'agit pour nous de tout simplement nous repentir, de nous approcher de Dieu avec un cœur humble, croyant que le Dieu que nous servons, c'est aussi un Dieu d'amour, un Dieu plein de miséricorde. Et si de tout mon cœur je lui demande humblement pardon, il me pardonne. Si nous, nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Oui, bilan de notre conscience, bilan de notre cœur, à plusieurs reprises. Par exemple, Jésus dit, si tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande et va d'abord te réconcilier avec ton prochain. Quand Jésus dit, si tu te souviens, donc il fait, c'est quelque part intimement lié avec notre conscience. Fais l'examen de ta conscience. Et si tu te souviens, eh bien, que quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande et va d'abord te réconcilier avec ton prochain. Frères et sœurs, si notre conscience nous accuse d'un quelconque péché, approchons-nous du Seigneur et repentons-nous de notre péché. Ce mot, il est fort, se repentir. Et on a besoin de chercher tout à nouveau la face de Dieu et implorer sa grâce. La Bible nous dit dans le livre d'Hébreux au chapitre 9 et le verset 14, la chose suivante, Hébreux 9, verset 14, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Si on n'a pas une conscience qui a été purifiée par le sang de l'agneau, on ne peut pas efficacement servir le Seigneur, le Dieu vivant et vrai. Alors notre bon combat, certes, il s'agit pour nous de garder la foi, mais en même temps avoir une bonne conscience, car nous l'avons lu tout à l'heure, certains, eh bien, ayant perdu une bonne conscience, ont fait naufrage par rapport à la foi. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Je termine avec peut-être un troisième point. Qu'est-ce que le bon combat auquel nous sommes appelés à mener ? Eh bien, le bon combat dont Paul parle consiste à travailler à la propagation de l'évangile de Jésus. Nous avons eu raison de chanter le premier chant, je ne sais pas si vous avez fait attention, et il était fait question de pouvoir se lever et d'aller propager la bonne parole bien dans le monde entier. C'est la volonté du Seigneur. Après être devenu enfant de Dieu, le Seigneur nous donne une mission, parce que la Bible dit le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Les gens, il y a des gens ici-bas, ils ont gaspillé toute leur vie parce qu'ils tournaient en rond, ils n'avaient pas un but. Quand on vient au Seigneur, il nous donne un but, une cause, et louable, le salut des gens. Les inviter à pouvoir prendre le chemin de la vie éternelle, c'est extraordinaire, travailler au salut des gens. Et pour justement illustrer encore ce troisième et dernier point, regardez ce qu'il est dit concernant une église, l'église de Philippe, qui se trouvait dans la ville de Philippe. Il nous est dit dans Philippiens chapitre 4, versets 2 et 3, nous allons terminer par cela, l'apôtre Paul qui prend le temps d'écrire à toute cette église, et il va dire « J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche, deux femmes, deux chrétiennes, à être d'un même sentiment » dans le Seigneur. Et il dit au verset 3, et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi. Ah. Et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Autrement dit, avant même qu'elles, toutes les deux, là, Évodie et Syntyche, se retrouvent dans un mauvais combat, puisqu'on comprend qu'ils sont dans un conflit, elles combattaient le bon combat, eh bien, en étant aux côtés de l'apôtre Paul, pour faire quoi ? Eh bien, pour promouvoir, pour la propagation de l'évangile, eh bien, sur la surface de la terre. Des femmes qui étaient vaillantes jusqu'au jour où elles ont été piégées. Elles sont tombées dans ce mauvais combat. Et là, on a encore un exemple qui nous montre qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Évodie et Syntyche étaient en désaccord. Il y avait comme un dissentiment entre elles. Elles ne se comprenaient pas sur un point. Et quelque part, eh bien, tous les chrétiens de l'église de la ville de Philippe étaient au courant de ce dissentiment. Pourquoi je dis ça? Parce que l'apôtre Paul ne se serait pas permis d'écrire un courrier à toute l'église de Philippe, et puis en faisant mention de ce problème. Donc finalement, ce conflit au sein même de cette église locale était une tâche pour cette église. Et l'apôtre Paul, avec la force que lui donne le Saint-Esprit, lui demande de régler ce problème. Demande à Evodie et Sintich de pouvoir réagir, de sortir de ce mauvais combat pour bien commencer à retrouver le chemin du bon combat. Et cette histoire, quelque part, elle est un avertissement pour chacun d'entre nous. Et quel est cet avertissement? De grâce, de la part du Seigneur. Ne dépensons pas notre énergie, ne dépensons pas notre temps, et peut-être même toute notre personne, dans des faux combats, dans des mauvais combats. Je ne sais pas combien de temps ce conflit a duré entre Evodie et Sintich, mais ça devenait lourd et certainement le Saint-Esprit en était attristé. Je vous le dis de la part du Saint-Esprit, de grâce, sortez de tous ces mauvais combats. Et au contraire, veillons à ne pas laisser notre vieille nature nous dévier du bon combat qui consiste à travailler au salut des âmes perdues. Amen ou pas amen, frères et sœurs? Mon énergie, ma personne, je veux la dépenser pour ce qui vaut la peine. Mais il y en a qui, toute leur vie, auront combattu la chair et le sang. Toute leur vie, ils seront dans des luttes, dans des combats. Vous croyez que c'est la volonté du Seigneur, ça? Tu crois que c'est la volonté? Le diable est en train de se moquer de toi. Mais sors de cette situation. Avec la grâce de Dieu, fais ce qu'il y a lieu de faire. Et découvre le projet, les plans que Dieu a pour ta vie. Que dire en conclusion? Juste une question. Dans quel combat, mon frère, ma sœur, te trouves-tu? Est-ce le bon combat ou est-ce le mauvais combat? En tout cas, j'ai pris le temps de l'expliquer. Le bon combat consiste à pouvoir garder la foi. Mon frère, ma sœur, reste attaché au Seigneur. Le meilleur est devant nous. Alors que le monde va à sa perte, nous pourrons lever les yeux. Nous avons une espérance glorieuse qui dépasse tout ce qui peut se passer ici-bas sous cette terre. Nous avons vu que le bon combat consistait aussi à garder une bonne conscience. Personne ici peut dire qu'il est juste. On est tous défaillants d'une manière ou d'une autre, en pensée, en parole, en action. Toutes les fois, notre conscience nous reproche quoi que ce soit. Librement, en toute liberté, parce que maintenant le lieu très saint nous est ouvert, la présence même de Dieu nous est ouverte, on peut venir et s'agenouiller humblement devant le Seigneur et dire « Seigneur, pardonne-moi de mon péché et Dieu nous fera grâce ». Mon frère, ma sœur, marcher dans Alléluia, le bon combat de la foi, c'est aussi parler de Jésus. N'ayons de cesse de parler de Jésus autour de nous. Je termine en rappelant ce que nous avons lu au début de Timothée, chapitre 4, les versets 7, et on va même rajouter le verset 8. Paul qui dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi ». Et il nous est dit au verset 8, « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui ont aimé son avènement. Puisse Dieu nous permettre, les uns les autres, de mener le bon combat de la foi, et que nous soyons fin prêts pour recevoir cette couronne de justice que Dieu nous accordera quand il viendra sur les nuées. Prions ensemble le Seigneur. » Merci pour ta parole encore en ce matin. Seigneur, tu veux fortifier notre foi. Et le même Seigneur qui a prié pour Pierre afin que sa foi ne défaille point, c'est le même qui intercède pour nous. Car après ta mort et ta résurrection, la Bible nous déclare que tu es remonté au ciel et là, à la droite de la majesté divine. Seigneur Jésus, tu intercèdes pour chacun d'entre nous. Et je le crois, tu pries pour que notre foi ne défaille point, ne se perde point. Et Seigneur, mon Dieu, comme dit ta parole, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour garder leur âme. Jusqu'au bout, Seigneur, envers et malgré tout, dans les adversités, dans les épreuves, dans les tempêtes, mais face aussi également aux attaques de l'ennemi, nous voudrions garder, mon Dieu, notre foi intacte. Nous voudrions au contraire voir notre foi se fortifier, grandir de plus en plus. Nous voudrions proclamer le langage de la foi et marcher avec toi avec une bonne conscience. Seigneur, purifie-nous ce matin. Fais-nous grâce, parce que rien d'impur, rien de souillé ne pourra rentrer dans ton royaume. Tu nous avertis et tu nous montres le chemin à suivre. Et tu veux que nous soyons fin prêts parce que tu es à la porte. Fais grâce encore en ce matin. Fais grâce, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus, je te le demande. Alors qu'on a les têtes baissées, les yeux fermés, il y a peut-être quelqu'un ou quelqu'une qui reconnaît qu'il n'est pas dans le bon combat. Il reconnaît qu'aujourd'hui, il est dans ce mauvais combat. Il est dans les luttes, dans des combats qui le fatiguent physiquement, moralement et spirituellement. Dieu veut que tu puisses te recentrer et te replacer dans le bon combat. Et je voudrais te donner l'occasion d'exprimer à Dieu ton désir de retrouver le chemin du bon combat. Et pour ce faire, je voudrais t'inviter à ta place, alors que les yeux sont fermés, les têtes sont baissées. Vous qui avez besoin de combattre tout à nouveau sur le bon chemin, vous qui avez besoin de combattre le bon combat de la foi, je vous invite à pouvoir vous lever à votre place. Il n'y a que Dieu qui connaît vos combats, vos luttes, les armes que vous avez utilisées jusqu'à maintenant qui n'ont pas été efficaces. Dieu veut maintenant vous donner des armes spirituelles. Alors levez-vous à votre place. Levez-vous à votre place. Alors que les têtes sont baissées, je le répète, ce n'est pas du spectacle. Vous qui vous sentez concerné par ce que je vous dis de la part du Seigneur, levez-vous à votre place. Et dans le nom de Jésus, le Seigneur va vous aider. Le Seigneur va vous donner d'arrêter de combattre le faux combat, le mauvais combat. Et vous allez trouver ce bon et beau combat qui consiste à garder la foi. Le Seigneur connaît ce que tu portes. Aujourd'hui, il te dit de te décharger complètement sur lui. Seigneur, tu vois ces personnes qui se sont levées. Elles se sont levées parce que, évidemment, elles ont, Seigneur mon Dieu, à leur rein la vérité pour ceinture. Celle qui est importante, nous l'avons lu tout à l'heure. Parce que pour nous approcher de toi, il faut que nous soyons sincères. Père, je te prie, Seigneur mon Dieu, d'honorer leur foi en ces instants. Et leur conscience, ils veulent, Seigneur, Père mon Dieu, la déposer à tes pieds. Et c'est toi qui t'en occupes maintenant, c'est toi qui purifie, c'est toi qui sanctifie, qui pardonne au nom de Jésus-Christ. Et Seigneur Père, ils sont d'accord pour déposer toute fausse arme, Seigneur mon Dieu. Et ils sont d'accord pour ne pas se faire eux-mêmes justice, mais pour pouvoir tout simplement s'abandonner à ta propre justice, à ta justice à toi. Celle qui est juste, qui est pure, qui est équitable. Seigneur, je t'en supplie, viens à leur secours, viens les aider, Seigneur Père, à retrouver la foi, à se fortifier dans la foi en Dieu. Seigneur Père, dans la foi en tes promesses, au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, de les encourager et qu'ils ne se laissent point écraser, abandonner. Seigneur Père, mon Dieu, quand ils passent, Seigneur, mon Dieu, des moments difficiles, tu vois ceux qui sont dans l'épreuve, ceux qui sont ballottés, malmenés, fais leur grâce. Rappelle-leur que tu es à leur côté, que tu les soutiens maintenant au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur mon Dieu, parce que tu les fortifies maintenant et tu les encourages pour la seule gloire de ton nom. Amen et Amen.